Bon, ben, bienvenue à cette soirée dissidence, cette nouvelle soirée dissidence. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas
Oui,
retrouvés. Ça fait plaisir de se retrouver, hein.
tout à fait.
Voilà, vous avez reconnu notre cher ami David. Et donc, on est plusieurs donc à se retrouver pour parler de l'actualité qui est très chargée avec six volets. Six volets, donc volet politique, volet art et divertissement, volet économie, volet santé, volet religion, et puis on termine avec le meilleur volet amour.
Oui,
Sans
non.
oublier le volley-ball. Alors, volet fin du monde, je le mets pour religion. Voilà. Et alors, donc, l'idée de cette soirée, c'est que on fasse pour chaque volet un tour de table et que chaque intervenant, s'il le veut, s'exprime pendant 3-4 minutes maximum, montre en main, je serai intraitable pour qu'on ait le temps d'aborder plein de sujets qui vont vous intéresser, j'en suis sûr. Et que chacun puisse s'exprimer s'il le veut, encore une fois. Alors, pour le volet politique, je vous ai balancé comme ça quelques thèmes, mais après, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Donc, c'est quelques mots-clés. Troisième guerre mondiale, Macron, gouvernement Attal, Ukraine, Russie, Terre Sainte et conflit israélo-palestinien, Trump, Milei, Bukele, alerte attentat, etc. Chacun peut prendre la parole pendant 3-4 minutes. Et alors, l'idée, je vais faire un petit peu mon militaire, mais l'idée, c'est qu'on, en fait, c'est pas un débat. C'est-à-dire que la personne, elle dit ce qu'elle veut et on l'interrompt pas parce que de toute façon, 3-4 minutes, c'est peu. Comme ça, c'est carte blanche. Chacun a carte blanche et c'est pas un débat. On va pas être là à se contredire. J'aime pas les débats, surtout en ce moment où je trouve qu'en fait, on veut avoir raison, on est pour, on est contre, mais personne s'écoute. Donc là vraiment, ben, en fait, on s'écoute, quoi.
Pas de débat, mais est-ce que ça peut être interactif si on a une question à poser à la personne
Alors,
suivante?
après, on verra pour les
Oui.
questions à la fin, enfin, à la fin de chaque volet.
On s'interdit
Si
pas
ça vous
d'apprendre
va.
à des
Voilà. On s'interdit pas, mais les questions à la fin de chaque volet, à la fin du tour de table, si ça vous va.
Oui, mais moi j'ai 80 ans, je ne vais pas mémoriser les 4-5 questions que j'aurai pendant
Bon, donc politique, qui veut parler de, qui veut prendre le micro?
Moi, ça va être 3-4 secondes hein, plutôt que 3-4 minutes. Bon, alors, volet politique. Autant vous dire que moi, la politique, ça fait deux. J'ai jamais été intéressé ni de près ni de loin à la politique. Jamais voté de ma vie à part là, dernièrement, là. Quand Macron, il a repassé. Donc, autant vous dire que moi, j'y connais rien de rien. J'entends ici et là des choses. Ça fait des milliards d'années que je ne regarde pas les infos. Donc, ouais, j'entends dire. Qu'il y a la guerre là en Ukraine, machin. Mais bon, moi j'étais plus sur les réseaux sociaux Telegram. Et bon, je sais que Poutine, voilà, il a quand même raison. Ça fait des années que l'Ukraine, avec ses bases militaires américaines, voilà, essaye d'enquêter sur l'Ukraine, sur la Russie, etc. Pour essayer de déployer un peu le nouvel ordre mondial un peu partout. Ils savent que Poutine, lui, il rigole pas et qu'il est contre. Et voilà, tout s'est déclenché par rapport à ça, et la France, forcément, c'est le nouvel ordre mondial, donc un peu tout n'importe quoi là, enfin bref. Mais politique, ouais, apparemment Poutine, il est, enfin il est avec comment il s'appelle Trump, et ils sont un peu main dans la main. Et je sais que Poutine a dit il y a quelques années, durant le Covid, que le nouvel ordre mondial était mort. Donc voilà, moi, tout ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas si tout ça est vrai, mais j'ai tendance à y croire par rapport au fait que voilà, ce serait une grosse supercherie orchestrée par le nouvel ordre mondial de nouveau, comme toujours, comme depuis des siècles. Et que, ouais, je pense que Poutine et Trump, ils vont avoir le fin mot de l'histoire, et puis voilà, ils vont dissoudre ce nouvel ordre mondial. Mais bon, dans combien de temps, dans quelles circonstances, machin. Là, j'ai pas les détails, mais c'est tout ce que je peux dire par rapport à la politique. Je connais vraiment rien. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, je laisse la parole.
Moi, pareil, je suis donc l'actualité. Que ce soit sur les médias mainstream, les médias alternatifs. On va dire, si tu veux faire un petit bilan rapide, c'est vrai que gouvernement Macron en tête, en tendance à m'énerver ces derniers mois, ces dernières semaines, avec ces déclarations toujours plus clivantes, toujours plus, on va dire, vide, le contenu vide de ce d'intérêt, vide de sens. C'est difficile de se positionner avec un homme politique comme lui, mais en même temps, il est pas du tout dans le rassemblement, il n'est pas du tout dans la défense des intérêts de la nation.
Vas-y, hein.
Détruit des gens, toujours quelque chose. Ouais. Les services dans l'esprit. On s'en fait faire notre pays, rayon de soleil, éventuellement un phare pour les autres nations démocratiques. J'ai besoin d'en moins confiance dans l'avenir, même si je resterai, quand il arrive en France. Je ne suis pas de ceux qui vont dire je vais quitter la France parce que je ne la reconnais plus. Non, justement, à mon petit niveau, je vais essayer de faire résistance
sur les
problèmes à mon petit niveau. Mais c'est difficile de se projeter avec de telles politiques. C'est difficile de se projeter avec de telles politiques qui ne donnent plus confiance dans la politique, dans l'engagement politique, dans la relation qu'ont les citoyens envers leurs représentants et envers leurs institutions. Et au final, moi je cherche de plus en plus à trouver des formes résilientes individuelles et collectives pour justement faire sans ces personnes-là. Je les considère comme des intrus ponctuels dans un état souverain. C'est un état souverain résiduel, mais qui reste un état souverain à mes yeux. Et au final, c'est ma façon à moi de rentrer en résistance par les divers projets que je mène et discuter. Et au final, que ce soit Macron, que ce soit, comme l'a déjà dit un peu David, votre pays, où il y a des ingérences multiples qui concernent de près ou de loin la France. On est en droit et en légitimité de se questionner, de creuser les sujets, de penser différemment que la norme. Voilà. Après, je pourrais développer plus des sujets particuliers, mais voilà un peu l'avis général de ma position actuelle sur les sujets politiques.
Bon, ben j'y vais.
Ça se touche.
Mais je vais vous parler de deux personnes, de Macron d'abord, et puis ensuite de l'Antéchrist. Ouais.
Politique.
Parce qu'en fait, on peut voir les choses de manière très horizontale, très humaine, très géopolitique. Et ce qui me rassure maintenant, c'est que Macron montre son réel visage et qu'il y a des gens qui commencent à comprendre que c'est quelqu'un de néfaste, parce que il a fallu du temps. Il a fallu du temps parce que la crise sanitaire, c'était pas flagrant qu'il était un ennemi du peuple. Certains l'ont même vu comme quelqu'un qui était gentil et qui protégeait le peuple. Mais maintenant que Macron justifie l'euthanasie, par exemple. C'est-à-dire, il a parlé clairement de aide à mourir. Hein. Il justifie l'avortement, il le fait rentrer dans la Constitution. La PMA sans père, il l'avait promu. Et que maintenant, il déclare la guerre à Poutine, je trouve que c'est très difficile, même pour ceux qui ne savaient pas trop se positionner par rapport à Macron, de le voir maintenant comme un philanthrope et comme quelqu'un qui défend la vie quand il institutionnalise et il défend par la loi la mort. C'est quand même assez grave. Donc, moi, déjà, par rapport à Macron, je suis évidemment attristé des décisions qu'il prend, mais je n'en suis pas étonné. Mais en revanche, ce qui me réjouit, c'est que maintenant, il joue carte sur table, il montre son vrai visage, et c'est extrêmement difficile pour ceux qui étaient macronistes de continuer à le soutenir. Alors après, je voulais vous parler d'une deuxième personne, parce que pour moi, ce qui se passe à l'horizontale ou humainement, C'est le premier degré, mais ce n'est pas le plus important et ce n'est pas celui qui nous intéresse, à mon avis, le plus. C'est-à-dire que même en ce qui concerne le conflit inter-saint israélo-palestinien, avec le génocide qui est évident en Palestine, même si, bien sûr, on ne doit pas justifier l'attaque du Hamas, mais on peut voir les choses de manière très humaine et distribuer les fautes ou prendre parti. Pour Poutine ou la Russie, pour Macron et l'OTAN, ou pour l'Israël, ou pour la Palestine. On peut prendre parti, mais je pense que c'est ça, pour moi, c'est rater Pâquerette. Parce que je me base aussi là sur ma foi et sur saint Paul qui disait: vous ne vous battez pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre des entités surnaturelles, spirituelles. Et que moi, je préfère, plutôt que de jeter la faute à un homme et en idolâtrer un autre, voir que le combat humain n'est qu'un combat surnaturel et spirituel en ses fonds, et que du coup, pour moi, Macron, c'est pas le problème, parce que Macron, il applique un agenda. Mais je dis pas que c'est une marionnette, il est libre de le faire, mais c'est pas lui foncièrement le problème, parce que pour moi, Poutine n'est pas un enfant de cœur non plus, et il n'y a pas à être pro-Poutine parce qu'on est contre la politique de Macron. Et donc, pour terminer, je dirais que je me fais volontiers complotiste. J'accepte le titre de complotiste parce que je pense que il y a maintenant des forces surnaturelles qui veulent supprimer et Dieu et l'homme, et que c'est ça le complot, en fait. C'est ça le complot mondial, parce que Satan ou Lucifer, moi je crois qu'il existe et que il n'a jamais supporté, bien que Dieu se soit incarné en tout homme par Jésus. Donc, c'est ma foi catholique qui parle. Et donc, il veut supprimer l'être humain au nom de l'homme, au nom d'un humanisme intégral. Et il veut supprimer l'Église. Et il se sert notamment des religions. Et je trouve que, pour terminer sur la politique, là, l'attentat à Moscou ressemble à s'y méprendre, hein, avec l'attaque du Bataclan. Ils étaient quatre assaillants. Qui se prennent pour les cavaliers de l'Apocalypse, enfin pour des justiciers qui vont. Mais ce sont des êtres humains, mais on voit qu'il y a des forces, il y a des forces surnaturelles qui sont en action. Et donc, je ne me fie pas trop aux hommes. Je préfère voir ce qui se passe. Bien sûr, je vois les pertes humaines, je vois les erreurs humaines, mais je sais que, à la manœuvre, c'est un combat d'abord spirituel qui se joue. Et donc, c'est ce qui m'aide aussi à prendre un petit peu de hauteur et à ne pas trop rentrer dans des considérations militaires ou géopolitiques. Et donc, la politique, je la vois plus avec la hauteur du surnaturel, voilà, et du spirituel. Et je sais qu'à la manœuvre, les dirigeants qu'on voit, que ce soit Bukele au Salvador qui vient d'arriver, que ce soit Milei en Argentine, qui eux sont anti-LGBT par exemple, qui vont même en Terre Sainte. Là, Milei, il est allé en Terre Sainte à Jérusalem pour demander la construction du troisième temple de Jérusalem. Donc, on voit à travers ces dirigeants-là que, en fait, c'est pas tellement un conflit militaire ou humain. Il y a un enjeu plutôt eschatologique, donc de fin des temps. Et que ce qui se passe en Terre Sainte, le conflit israélo-palestinien, c'est avant tout un conflit, à mon sens, en lien avec les prophéties messianiques, puisqu'ils se disputent Jérusalem et le troisième temple de Jérusalem. Voilà, donc quand on voit les choses de manière moins humaine, mais plus verticale, je trouve que déjà, ça nous aide à ne pas détester tel ou tel dirigeant, mais à essayer de comprendre que on est face à un projet homicide de destruction de l'humain et du divin. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai parlé trop. Qui veut prendre le micro?
C'était très intéressant et très vrai. Donc, ça valait le coup.
Alors, je te rejoins, Philippe, sur cette vision élargie et finalement qui se recoupe entre la politique et, et les projets eschatologiques. Et moi, j'assiste aussi, alors, avec une certaine dose d'optimisme, mais finalement, dans ce qui se passe aujourd'hui politiquement, en fait, ce chaos marque aussi peut-être de la peur pour certains, mais aussi de l'optimisme, dans le sens où, en fait, ce conflit que j'appelle conflit israélo-palestinien, que j'appelle pas conflit israélo-palestinien, moi, j'appelle guerre ouverte, en fait, à un peuple qui n'est pas anodin, parce qu'en fait, beaucoup nous disent, oui, mais quand il y avait au Darfour 300 000 morts, tu parlais pas, et quand c'était au Rwanda 200 000, bah, tu parlais pas, et personne n'allait faire des manifs. Si, alors déjà, il y avait des manifs, donc ça, c'est pas une justification. Personne n'était heureux à ce moment-là. Mais il n'y a aucune, en fait, aucune guerre qui était faite contre un peuple pendant 75 ans. Les salauds qui veulent lui faire croire que c'est la même chose que les autres, en fait, c'est faux. Donc, il y a une guerre qui est menée sans relâche dans l'apartheid et dans les violations du droit international. Mais j'ai envie de dire, le bilan de 30 000 morts, en fait, il est que dalle. Humainement parlant, c'est horrible de le dire, mais c'est rien, 30 000 morts. On a eu 500 000 l'année dernière, c'est rien. Mais symboliquement, ce qui se passe, c'est cette révélation de deux poids, deux mesures aux yeux de tous, de voir qu'en fait, les vies ne sont pas égales, qu'il y a de la mauvaise foi folle de la part de toutes les politiques qui considèrent tous les partis de gauche, tous les médiapartes qui sont ultra pour le respect des peuples, pour l'Ukraine, etc. En fait, jusqu'à toucher la maison mère. En fait, une fois que vous touchez la maison mère, eh ben, tous ces juifs de gauche, tous les Bernard Olivier, Henri Lévy, tous les Winter Roth, tous les Jean Eindhoven et toutes les compagnies, en fait, bah, là, leur gauchisme s'arrête. Et là, ils sont d'extrême droite. Donc, on voit cette mascarade qui est devenue trop visible, en fait, aux yeux de tous. Et même aux yeux de gens qui n'étaient pas sensibles à cette cause, parce que beaucoup pourraient se dire, bah, c'est pas ma guerre. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, mec, on a d'autres choses à faire chez nous, c'est pas notre guerre. Et là, je me souviens d'une citation. Vous savez, la citation de dire, ils sont venus pour les communismes, mais c'était pas ma guerre. Ils sont venus ensuite pour les socialistes, c'était pas ma guerre. Et puis, en fait, à la fin, il restait plus personne. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est là-dedans. C'est que tout le monde voit ça comme un sujet lointain. En fait, il nous concerne tous. Et symboliquement, ils mettent en lumière les liens de pouvoir et de domination qui existent aujourd'hui en France, à travers le capitalisme, à travers les différents réseaux. En fait, c'est ça qu'on voit aujourd'hui, plein jour. Et ça devient tellement évident qu'ils n'arrivent plus à rien cacher. Et donc, bah, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ouvrent les yeux, il y a moins de gens, moins en moins de gens qui sont dupes. Et je pense que voilà, ça va créer j'espère, un nouvel élan, en espérant que l'amnésie qui touche d'habitude mes compatriotes ne fonctionne pas et que tout le monde se souvienne de qui fait quoi et qui sont les salauds et quelle position ils ont aujourd'hui. Donc voilà, moi j'espère qu'on change, qu'on passe à autre chose aujourd'hui. C'est plus tenable. Et tout ça, pour moi, c'est relié à ce qui se passe économiquement. C'est pour ça qu'on l'aborde dans la politique, mais en fait, c'est politique, c'est eschatologique et c'est... Voilà, un gros volet qui part avec.
J'ai un peu du mal à situer. Comment est-ce que toi, tu fais une quelconque chose en Israël, il y a aussi des églises chrétiennes qui sont protégées. Enfin, finalement, je ne comprends pas très bien tes concepts de quelle forme. Il faudrait que je réécoute pour que je te réécoute à nouveau pour essayer de comprendre comment tu projettes ta chose.
Mais j'ai pas parlé de vision chrétienne, je te dis juste que si les peuples là se tapent sur la gueule, c'est pas juste pour des raisons économiques ou politiques, c'est parce que derrière il y a un enjeu spirituel et messianique, c'est-à-dire que chaque religion, et même ceux qui ne croient pas, ils sont dans une attente ceux qui ne croient pas d'un phénomène surnaturel puissant, et ceux qui croient, les juifs attendent le Messie, et les musulmans attendent le retour de Jésus, et les chrétiens aussi.
Donc, cette terre-là, si elle fait autant, c'est ce que disait Jérémy, c'est que c'est pas un conflit comme les autres. Et c'est pas une affaire de nombre de morts, c'est que derrière, il y a une convergence des croyances et des prophéties de toutes les religions et même spiritualités du monde. C'est juste ça que je dis. Et que c'est pour ça que ça semble être une guéguerre entre êtres humains, mais en réalité, derrière, c'est pas que les êtres humains sont impliqués, mais il y a aussi d'autres entités et d'autres forces qui font que ça converge là-bas. Et c'est pas que ma foi chrétienne, c'est pas que l'Apocalypse, qui c'est vrai, l'Apocalypse de Saint-Jean parle de la bataille d'Armageddon à la fin des temps, qui aura lieu donc en Terre Sainte, pas très loin de Jérusalem, où même les démons vont inspirer les maîtres du monde, les puissants, à se retrouver à Jérusalem.
Si tu vois le
Donc c'est dit par prophétie, mais toutes les religions ont quelque chose à voir avec la Terre Sainte, soit parce qu'ils attendent le Messie, soit parce qu'ils attendent son retour. Et on voit aussi que quand tu regardes pourquoi juifs et musulmans se bouffent le nez en ce moment, c'est pas une affaire de territoire. Foncièrement, c'est pas une affaire, puisque justement j'ai vu que même les frontières d'Israël, c'est pas juifs et musulmans, mais ça semble être, c'est présenté comme ça. Mais les frontières d'Israël sont même pas délimitées clairement. J'ai entendu ça. Donc, on voit bien que ce n'est pas une affaire de territoire, foncièrement. C'est une affaire surnaturelle et spirituelle. Mais je sais que on parle de monde invisible.